Il est 7h.
Les affrontements doivent cesser immédiatement. Je demande à tous les intervenants d'entendre cet appel.
L'appel d'Antonio Guterres, le secrétaire national des Nations Unies, alors que les raids israéliens se sont poursuivis cette nuit dans la bande de Gaza après un dimanche particulièrement sanglant. Sanofi peut-il revenir dans la course pour le vaccin contre le Covid? Le laboratoire devrait présenter ce matin les résultats de la phase 2 de ses tests. S'ils sont bons, la fabrication du vaccin suivra. J-2 avant le retour des premières libertés, les terrasses, les cinémas et les commerces rouvrent mercredi. Reprise des concerts aussi avec un vrai casse-tête à gérer pour la billetterie. Et puis le suspense reste entier. Qui de Lille ou Paris sera champion de Ligue 1 cette année? Un point seulement sépare les deux équipes avant la dernière journée.
Juste après ce journal, l'éclairage écho, Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouette.
Oui, le Proche-Orient est de nouveau au centre du monde et le monde regarde son nombril impuissant et gémissant.
L'édito sport de Virginie Fulpin.
Multiplex, tous les matchs à la même heure, du suspense, de l'enjeu à tous les étages, elle est vibrante cette fin de saison de foot.
Et puis avant 7h30, on va retrouver bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h sur Europe 1, le journal d'Émilie Dez.
À la une, après une semaine de conflit, Israël intensifie une nouvelle fois la pression sur la bande de Gaza. Le domicile du chef du Hamas a été bombardé hier. On ignore s'il était présent au moment de la frappe. La veille, c'est un immeuble abritant des médias internationaux qui avait été détruit. Et cette nuit, Jean-Sébastien Soldaini, les raids se sont poursuivis.
Et ce sont des frappes qu'Israël affirme mener à plein régime. Des témoins sur place parlent de bombardements les plus intenses depuis la reprise des affrontements entre Israël et le Hamas à Gaza. Un pilonnage qui n'a duré que quelques minutes, mais qui aurait endommagé des centaines de bâtiments. Une partie des habitations de l'enclave palestinienne est privée d'électricité, difficile à admettre pour Wassel Abou Youssef, membre de l'OLP, l'Organisation pour la Libération de la Palestine.
Cette insistance du gouvernement de Netanyahou à la destruction et à la mort d'un grand nombre de civils, d'enfants, de femmes, ainsi que la destruction des infrastructures sont autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Et cet intense pilonnage intervient alors que la journée d'hier a été la plus meurtrière. 42 Palestiniens ont été tués, dont au moins 8 enfants. À Jérusalem, la tension reste vive, notamment dans le quartier de Sheikh Jarrah, à l'origine de ce regain de violence. C'est là qu'hier soir, une attaque à la voiture bélier contre une patrouille israélienne a fait plusieurs blessés.
Et après une telle semaine de violence et d'appel au calme relayé par les plus grandes puissances, cette fois c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat.
Les hostilités actuelles sont tout à fait effroyables. Ce nouveau cycle de violence ne fait que perpétuer les cycles de mort, de destruction et de désespoir et repousse toujours plus loin tout espoir de coexistence et de paix. Les affrontements doivent cesser immédiatement. Les roquettes et les mortiers d'un côté et les bombardements aériens et d'artillerie de l'autre doivent cesser. Je demande à tous les intervenants d'entendre cet appel.
Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour la troisième fois sans réussir à s'accorder sur une déclaration commune.
Sanofi peut-il encore revenir dans la course au vaccin contre le Covid? Le laboratoire a pris du retard après les premiers résultats décevants de ses essais cliniques annoncés au mois de décembre dernier.
Le vaccin n'était pas assez efficace pour les publics les plus âgés. Ce matin, Sanofi devrait présenter les résultats de la phase 2 de ses tests, des résultats déterminants pour la suite, Emmanuel Duteil.
Oui, chez Sanofi, on veut croire que la course au vaccin n'est pas finie. Oui, on arrive après tout le monde. C'est très vexant pour un spécialiste des vaccins comme nous, mais notre produit va montrer toute son utilité, veut-on se rassurer en interne. Si les résultats attendus potentiellement ce matin sont bons, ce qui semble être le cas, Sanofi va lancer une dernière étude dite de phase 3. Mais il va surtout lancer en parallèle la production de son vaccin. Les premiers flacons pourraient être disponibles d'ici à la fin de l'année. L'avantage de ce produit, c'est qu'il s'appuie sur une technologie éprouvée. C'est celle qui est utilisée pour le vaccin contre la grippe. Il se garde facilement entre plus 2 et plus 8 degrés. Et Sanofi étant l'un des plus grands laboratoires au monde, il dispose d'énormes capacités de production. Car chez Sanofi, on en est persuadé, il va falloir revacciner les populations. Et là, pour aller vite et le faire avec moins de pression, eh bien le vaccin de Sanofi aura vraiment toute son utilité.
Et le patron de Sanofi, Olivier Boggio, sera en exclusivité l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15.
Plus que 2 jours à tenir avant le retour d'un peu de liberté. Dès mercredi, le couvre-feu sera repoussé à 21h. Les terrasses, les commerces et les cinémas vont pouvoir rouvrir avec des jauges réduites.
Réouverture aussi des salles de concert après une année rythmée par les reports ou les annulations. Difficile parfois de s'y retrouver pour le public en ce qui concerne les remboursements. Et que dire des professionnels du secteur qui ne cessent de s'adapter, comme a pu le constater Angèle Châtelier.
Tu ne peux pas accueillir les 1000 premiers qui arrivent et puis tous ceux qui ont un billet restent à la porte.
Mélanie Brollo travaille pour Citiquette, un site pour acheter des billets de spectacle. Et entre les annulations, les reports et les contraintes sanitaires, sa vie est un casse-tête.
Il faut vraiment un travail de fourmi, en fait, de contacter toutes les salles, les festivals, les managers, les artistes pour mettre à jour au fur et à mesure.
Principal problème, la jauge réduite. Là, jusqu'à fin juin, c'est 65% de spectateurs maximum dans la salle. Mais si un concert était complet avant la pandémie, ça implique de laisser des spectateurs sur le carreau. Alors Alain Souchon a trouvé la solution, jouer plus. Il a 4 dates de prévues au Palais des Sports de Paris fin juin, par exemple. Son tourneur, Pierre-Alexandre Vertadier, qui est directeur de Décibel Productions, s'occupe aussi de Louis Chédid ou de Kenji Girac, qui repartent bientôt sur les routes. Et il travaille d'arrache-pied pour s'adapter à tout.
On insiste beaucoup sur le fait que les billets qui ont été achetés seront valables. J'ose espérer que ça ne va pas durer éternellement. Donc on fait plutôt un peu au cas par cas en ce moment.
D'autres ont préféré faire table rase, rembourser tout le monde et ouvrir une nouvelle billetterie, comme le Festival des Vieilles Charrues, qui accueillera cette année 5 fois moins de festivaliers que d'habitude.
Angèle Châtelier pour Europe 1.
L'adolescent de 14 ans soupçonné d'avoir poignardé mortellement une jeune fille à Ivry-sur-Seine a été mis en examen pour meurtre.
Le jeune homme qui a un casier judiciaire vierge a reconnu sa participation mais soutient n'avoir pas eu l'intention de donner la mort. Une marche blanche sera organisée en mémoire de la jeune fille samedi.
Du football et le suspense qui reste entier au sommet du classement de la Ligue 1.
Les années précédentes, on avait l'habitude de voir Paris sacré bien avant la fin de la saison. Cette année, c'est loin d'être fait, Simon Rubin.
Ah, on peut difficilement rêver mieux, effectivement. Lille ne compte plus qu'un point d'avance sur le PSG ce matin après son match nul 0-0 contre Saint-Etienne. Paris, qui de son côté a battu Reims 4-0. Tout se jouera donc sur la dernière rencontre dimanche prochain. Lille ira à Angers pour cette dernière journée, Paris à Brest. Imaginez, les Lillois vont passer la semaine à ne penser qu'à ça, à ce dernier match, la possibilité de faire tomber Paris de son piédestal, à la fois exaltant et angoissant. Un duel pour le titre, enfin, c'est même mieux que ça, parce que depuis hier soir, un troisième larron entre dans l'histoire, c'est Monaco qui pourrait être champion si Lille et Paris perdent leur dernier match. Monaco qui se battra pour à minima conserver sa 3e place qualificative en Ligue des Champions face à Lyon. Et puis il y a aussi la 5e place, la petite Coupe d'Europe. C'est un enjeu également pour Marseille et Lens. Enfin en bas de tableau, on lutte pour le maintien. Alors c'est terminé depuis hier soir pour Nîmes qui accompagnera Dijon en Ligue 2. Mais il reste encore une place de barragiste. Reims, Bordeaux, Strasbourg, Lorient, Nantes, Brest sont tous sous la menace. Ça veut dire que dimanche soir prochain, si vous voulez du frisson, de l'émotion, des retournements de situation, ben on a beaucoup mieux qu'un film ou que Netflix. Faites confiance au multiplex d'Europe 1.
Et le retour du bon vieux multiplex a réveillé la nostalgie de Virginie Fulpin qui nous en parlera tout à l'heure à 7h20.
Dans l'édito sport, effectivement. Et on va terminer avec l'histoire incroyable de ce tout jeune médecin qui vient de se lancer dans un Tour de France des remplacements à bord d'un camping-car.
Oui, il a pris la route il y a près de 2 mois, quelques jours seulement après avoir obtenu son diplôme de médecin généraliste. Son idée, remplacer ses confrères débordés dans les zones rurales. Marion Gauthier l'a rencontré au début de sa 5e étape dans l'Aisne à Vervins.
Je me suis dit, mais je ne vais pas m'installer tout de suite. Et pourquoi je ne partirais pas finalement exercer partout? Ben oui, mais le logement, c'est compliqué. Mais pourquoi je ne prendrais pas un camping-car?
Un mastodonte, 7 mètres sur 2, entre les haies du camping municipal dont s'occupe Michel, habitué au kilomètre pour trouver un praticien.
Il manque de médecins, ben, je trouve que c'est très bien.
T'as les 7 sutures.
Passation de cabinet à Vervins, un médecin va pouvoir souffler un peu.
Moi, cette semaine, je vais quand même travailler à l'hôpital, mais ça va me permettre de baisser mon rythme d'un cran. C'est-à-dire que j'aurai pas le rythme du téléphone qui met un peu la pression.
Un an que François cherche un remplaçant, Martial lui prendra sa blouse pendant une semaine.
J'ai envie de faire la médecine rurale, mais je pense que j'ai besoin aussi de profiter de l'opportunité que j'ai d'exercer mon métier partout en France. Je suis jamais venu dans l'Aisne, dans la Thiérache.
Martial, je te remets le moutard de la Thiérache qui est sorti il y a 2 ans. On en est très fiers.
Mais c'est trop sympa.
Puis après, je te passerai les clés.
Le fait qu'un médecin qui vienne de nulle part puisse trouver des remplacements aussi facilement, bah, ça veut dire qu'il y a quand même un vide.
Un vide que Martial voudrait combler. L'itinérant pense déjà à créer une association pour multiplier les Tours de France de généralistes. Sur la route du futur tour à Vervins, Marion Gauthier, Europe 1.
Cela dit, c'est très Covid, hein, finalement, le camping-car. Certains ont pu y goûter. Alors pourquoi pas pour exercer la médecine partout dans le pays. Merci Émilie Dez, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h10.
Europe 1, Mathieu Béliard.